dépend de la batterie.
Est-ce que ça va là? Oui, impeccable.
Et là? Non.
On va sur celui-là. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin et sentez-vous les bienvenus dans la maison du Seigneur, que vous soyez à distance ou que vous soyez ici en présentiel. On a un magnifique soleil ce matin et c'est courageux de votre part d'avoir voulu vous enfermer pendant une heure, un petit peu plus, mais c'est très important pour nous tous de venir le dimanche matin. Et je vous propose de commencer par un temps d'annonce et j'invite pour la première Philippe à venir.
Bonjour à chacun, à chacune. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Pascal Strubin lundi 29 au petit matin. Vous saviez probablement qu'il était hospitalisé depuis plusieurs semaines. Le service se tiendra vendredi 9, ce vendredi, à 14h au centre paroissial œcuménique de Mérin. Et je vous invite bien sûr à prier pour la famille, c'est un choc indicible et nous voulons les porter dans nos prières. Je vais prier maintenant pour eux. Cher Seigneur, tu es un Dieu de force et de vie et il arrive qu'il se présente devant nous des circonstances incompréhensibles. Nous voulons te prier pour Christine et Daniel Strubin, pour leurs enfants, David en particulier, dans ce temps de deuil intense, de séparation. Merci de développer sur nos amis ta bonté, s'il te plaît, et de leur donner la consolation, les forces nécessaires, heure après heure, jour après jour. Nous les recommandons à ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.
Pour les besoins de prière en fin de culte, plusieurs personnes peuvent se trouver à gauche de la scène et sont à votre disposition si vous avez besoin de prendre un temps de prière avec eux. À la fin du culte, une séance d'information du conseil aura lieu. Donc je vous demande de rester pour avoir le temps de pouvoir prendre ces informations et notamment pour ceux qui le peuvent, s'en suivra un repas communautaire. Et enfin, on a une petite affiche à vous présenter. Il n'y aura pas de culte ici à l'église évangélique de Mérin la semaine prochaine pour la simple et bonne raison qu'il se déroulera à Palexpo avec le réseau évangélique de Genève. Donc voilà, je pense qu'on sera nombreux. Et vous avez le programme en détail sur l'affiche et qui a été donné en même temps dans l'Actu Mérin. Je vous propose à présent de rentrer dans ce temps de culte. Et je remercie d'avance l'équipe Louange d'être déjà au service. Et je vais prier pour introduire ce culte. Oui, Seigneur, merci pour ta présence ce dimanche matin au milieu de nous. Tu vois que ce temps où on se rassemble, on veut le mettre à part pour toi, à part pour être à l'écoute de ta parole, pour vivre cette foi que tu nous donnes, Seigneur, dans notre cœur, en communauté également. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont pu se déplacer. Je te prie pour celles qui n'ont pas pu non plus venir ce matin, mais qui, grâce à la technologie, peuvent suivre notre culte. Je te remets pleinement le temps qui nous attend, qui nous suit, et te remets ce culte. Amen.
Ce matin, il y a foule. Et à Jérusalem, au tournant 30, il y avait foule aussi. C'était bientôt la Pâque. Il y avait une foule pour accueillir Jésus en héros. Et la foule crie « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Alors si vous parlez hébreu couramment comme moi, hébreu ancien, savez qu'Hosanna signifie gloire à, louange à, dans ce contexte. Hein. Donc Hosanna à Dieu, ça veut dire gloire à Dieu, louange à Dieu. Alors la foule accueille Jésus en héros. Gloire à Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Moins d'une semaine après, changement de décor, la même foule demandera sa mise à mort. La même foule, elle va crier « Crucifie-le ! » Hosanna, crucifie-le ! Hosanna, crucifie-le ! Comment est-ce qu'on peut passer d'une extrême à l'autre aussi rapidement ? Trop souvent, je fais partie de cette foule, hélas. Un événement positif, un exaucement de prière, « Oh, tout va bien, Hosanna !» Et puis, quand il y a une contrariété, je suis déjà en train de blâmer le Seigneur, je me rapproche un peu du crucifix-là. Alors ce matin, je vous propose de faire place à deux Hosanna différents. Justement, si vous êtes dans la joie, vous avez envie de chanter, vous avez envie de chanter Hosanna à tutelle pour glorifier Dieu, allez-y, lâchez-vous, si vous voulez danser, dansez, c'est juste, c'est bon. Si au contraire, vous n'avez pas le moral, vous avez l'impression d'être abandonné par Dieu, ou pas assez bon pour Dieu, ou qu'un drame aussi s'est abattu dans votre vie, ben, y a de la place pour un Hosanna prononcé en sanglots. Et je crois que le Hosanna de la joie manifeste cette réalité déjà présente du salut en Jésus-Christ, de ce royaume qui vient, de notre espérance que nous avons, de ce royaume qui vient. Et puis le Hosanna prononcé en sanglots, c'est reconnaître la réalité du mal, encore présent pour un peu de temps, la réalité du mal déjà vaincu, mais du mal pas encore totalement remplacé par ce royaume qui vient et qui nous fait donc encore mal. Donc ces deux Hosanna, ils ont leur place et puis il faut évacuer ni l'un ni l'autre. Alors que le Seigneur nous aide à devenir des chrétiens qui tiennent en équilibre ces deux réalités, qu'il vienne au secours de notre foi pour que nous puissions en toutes circonstances lui dire « J'ai confiance en toi ». Alors c'est le parcours qu'on vous propose au travers des trois chants qu'on va chanter.
Thank you. hein, Hosanna, plus calme.
Viens au secours de mon peu de foi, viens mon amour.
Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Je fais la partie enfant, mais bon, c'est un peu pour tout le monde quand même. Hein. Alors, il y a deux jours, c'était le 2 février, donc la Chandeleur. Il est tradition de faire des crêpes à cette occasion. Qui a mangé des crêpes il y a deux jours? C'est tout! Qui a mangé des crêpes sur les derniers jours? Quoi? Quoi? Bon, alors ceux qui ont mangé des crêpes, qu'est-ce que tu as mis sur tes crêpes? Dis-moi. Du chocolat, mais évidemment, moi je me balade toujours avec un peu de chocolat comme ça dans le sac à dos. Qu'est-ce qu'on met d'autre sur les crêpes? Il n'y a pas d'autre préférence? Du fromage? J'ai pas né du fromage, mais pourquoi pas? En sucré, il y a aussi la confiture, classique évidemment. Et puis, nous, on a pas mal de peanut butter. Mais il y a plein d'autres choses possibles. Je ne sais pas si vous saviez, mais cette fête a une origine religieuse. Je vais vous raconter l'histoire. Est-ce que vous vous rappelez de Marie, la maman de Jésus, et de Joseph, son mari? Oui? Dans la Bible, donc c'est Luc chapitre 2, pour ceux qui voudraient lire l'histoire complètement. Il est dit que 40 jours après Noël, Marie, Joseph et donc Jésus, leur bébé, ils emmènent donc le fils Jésus au temple de Jérusalem. Le temple, c'est une grosse église. Ils le font parce qu'ils sont juifs et dans la tradition juive, tous les premiers-nés garçons doivent être présentés au Seigneur de façon officielle, donc dans un grand temple. Et dans cette histoire, il y a également un homme nommé Siméon. Siméon, il est très vieux pour cette époque, très 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 jeune. Et il aime Dieu de tout son cœur. Et Dieu avait dit à Siméon qu'il verrait son envoyé tout spécial avant de mourir. Donc, le jour où Marie, Joseph et bébé Jésus vont au temple, l'Esprit de Dieu dit à Siméon, « Va au temple, va au temple !» Il va au temple. Et quand il voit l'enfant Jésus, Siméon a la certitude que c'est lui, le bébé Jésus, le sauveur du monde. Siméon prend alors le bébé dans ses bras et il dit cette magnifique prière, « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares, la lumière que tu envoies pour éclairer les nations. » Au temple, il y a aussi Anne. Ah ben c'est un bébé, hein. Le temple ça devait être ça. Hein. Un bébé, des personnes qui priaient. Et dans ce temple, il y a aussi Anne. Anne c'est une veuve, ça veut dire qu'elle a perdu son mari et elle l'a perdu très tôt. Elle est âgée de 84 ans. Et elle passe ses journées au temple. Elle prie, elle jeûne. Et en voyant Jésus, elle dit publiquement, donc devant tout le monde, sa reconnaissance envers Dieu. Et elle parle du bébé Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. Donc la délivrance, ça veut dire d'être soulagée, d'être libérée. Elle reconnaît, parce qu'elle a les yeux de la foi, elle voit plus que ce que les yeux voient, que même si Jésus n'est encore qu'un nourrisson, il a une mission divine très spéciale. Siméon et Anne, c'est des exemples pour moi. Parce qu'ils prient beaucoup, ces deux personnes ont été capables de voir par-delà les apparences. Ils ont vu le bébé Jésus, mais ils ont compris qu'il était le sauveur du monde. Pour se rappeler cette histoire, les chrétiens, il y a au 7e siècle, donc il y a 1500 ans, il y a très longtemps, ils faisaient une marche éclairée à la bougie, aux chandelles. Chandelle, chandeleur, ça vient de là. Et puis, bon, j'ai lu qu'il y a le pape Gélase Ier qui faisait distribuer des crêpes aux pèlerins qui arrivaient à Rome à cette occasion. D'où le fait que nous fassions des crêpes. Donc, à la chandeleur, la fête des crêpes, mais surtout la fête de la présentation de Jésus au temple, rappelons-nous que la prière rend encore plus capable de découvrir la présence et l'action de Dieu dans ce monde et dans nos vies. Et pour tous ceux qui n'ont pas mangé encore de crêpes, j'en ai fait pour le repas fraternel ce midi. Merci.
Oui, c'est le temps pour les enfants d'aller dans leurs écoles du dimanche respectives. Et aussi, on m'a dit, les jeunes du caté partent en même temps. Voilà, je vais juste prier pour les remettre dans les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, tu vois que cette nouvelle génération, aussi petite soit-elle, elle est importante à tes yeux et tu as un projet pour leur vie, à chacune et à chacun. Merci de les bénir, Seigneur, dans ce temps qu'ils vont avoir à part. Bénir aussi les moniteurs pour toutes les belles activités qu'ils ont prévues. Et je te suis vraiment reconnaissant pour cette église en devenir que tu nous donnes. Amen. Et j'invite Mélina à me rejoindre pour la prédication.
Très bien. Alors, vous voyez le titre pour l'instant, c'est un peu flou, Mais avant de même parler du titre, j'aimerais vous poser une première question. Est-ce que vous connaissez cette personne?
Ah ouais, oui.
Je vois qu'il y en a qui connaissent mieux Superman que des personnes qui mangent des crêpes, ça marche. Donc, c'est Superman, vous êtes tous d'accord? Reconnaissable, facile. Mais est-ce que vous reconnaissez cette personne? Ah, c'est le même. Vous êtes tous certains de cette réponse? Oui, je vois des têtes qui acquiescent. Ouais, c'est Clark Kent, donc autrement dit Superman sans son costume. Et alors, vous avez une bonne culture générale, mais on ne va pas parler de Superman, enfin presque. Et avant d'en rentrer plus dans les détails, eh ben, je vais vous dire un peu autre chose. Drôle de lien, mais est-ce que vous pouvez me parler... ou au moins me donner une petite idée d'un verset qui parle de courir sa course. Ouais, je vois des têtes qui acquiescent. Est-ce que quelqu'un connaît la référence, par exemple? J'en ai un autre, mais ok. Il y a Philippiens 4 qui parle de courir une course. Ah, j'entends... Monsieur le pasteur, s'il vous plaît. Oh, la femme du pasteur de Timothée, exactement. Merci beaucoup. Voilà, donc moi j'ai dans la tête 2 Timothée 4, versets 6 à 7. Alors voilà, donc je vous laisse le temps de lire le verset et vous voyez que, eh ben, on connaît un peu tous ce verset et pour beaucoup de raisons, on peut le connaître. Déjà parce qu'il est beau, il est plein d'espoir, il peut nous aider à traverser des moments difficiles. Et ce beau passage, je dois vous l'avouer, je le connaissais aussi, déjà avant de faire cette prédication. Mais je connaissais plus ou moins, j'ai quand même dû chercher sur Internet la référence, parce que moi je ne l'avais pas. Et bien ce beau passage m'a à nouveau frappée lorsque j'ai recommencé à avoir mal aux pieds. Donc vous me voyez à nouveau en béquille, c'est pas pour rien, j'ai de nouveau un peu mal. Il y en a qui le savent déjà, parce que c'est un peu mes chauffeurs qui m'emmènent à l'hôpital. Donc, merci Philippe et Francine. Hein. Et voilà, j'ai donc dû recommencer un nouveau traitement à l'hôpital. Et donc, dans les moments difficiles, eh ben, on cherche un peu les versets auxquels on peut s'accrocher. Les versets qui nous aident à rester motivés à Dieu, qui nous restent à vraiment s'ancrer et se dire « tout va passer à un moment ». Et ces deux versets, eh ben, c'est des versets qui motivent et qui me motivent. Et j'ai donc voulu relire ces versets et j'ai cherché dans ma Bible. J'ai d'abord cherché sur Internet la référence, puis j'ai ouvert ma Bible. Ce qui est important parce que quand on ouvre sa Bible, on a le passage en entier et on n'a pas juste le verset de la référence. Et c'est quand même pas mal ça. Et donc j'en suis arrivée à lire entièrement 2 Timothée 4. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble ce matin. Alors ça peut paraître un peu long parce que c'est un chapitre entier, mais ça va aller. Et donc je lis dans la version Louis II. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens ou plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Et quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Ubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Et en lisant ce passage, j'ai pas été le plus frappée par ces versets 6 et 7, mais en fait par tout le passage. Tout ce qu'il y a autour, tout est extrêmement précieux pour moi. Et alors peut-être que vous ne comprenez pas trop où je veux en venir, encore moins avec mon début sur Superman, mais je vais vous détailler un peu mon interprétation. Alors, est-ce que Paul est un super-héros de la foi? Alors, pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je vous pose cette question et pourquoi je me la suis posée, je vais vous faire un petit résumé de qui est Paul. Je pense que vous le connaissez tous un peu, mais ça fait toujours du bien. Donc Paul, c'est un monsieur qui est né dans une famille juive sous le nom de Saül. Il a commencé par persécuter les chrétiens qui suivaient Jésus, jusqu'à ce que lui-même se fasse toucher par Dieu et se convertisse pour ensuite transmettre la bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est la nouvelle alliance apportée par Jésus. Et depuis qu'il s'est converti, Paul, il a une vie qui n'est vraiment pas commune. Il lui est arrivé 1000 choses. J'ai essayé de résumer, j'ai pris que des petits points seulement. Mais il est allé dans énormément d'endroits pour annoncer Jésus. Il a envoyé des lettres. Il s'est retrouvé en prison une première fois. Après, il n'était plus en prison. Après, il était sur un bateau. Le bateau, il a fait naufrage. Après, il est retourné en prison. Enfin, vraiment, il passe par 1500 choses dans sa vie. Et si je vous raconte un peu tout ça, toutes ces péripéties qu'il a eues, c'est pour que vous dimensionnez un peu le côté incroyable de Paul et le côté incroyable qu'elle a sa vie. Donc sa vie et sa dédication à l'enseignement de l'Évangile, malgré tout, malgré la prison, le bateau, le naufrage, de nouveau la prison, c'est incroyable et c'est presque digne d'un super-héros. Et ce côté super-héros, il ressort encore plus pour moi quand, au plus près de la mort, enfermé dans une prison, Paul écrit à son ami Timothée ces mots : « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Enfin, vraiment, à aucun moment il se fatigue, Paul. Il continue, il persiste. Et ce terme de servir de libation, verset 6, c'est fort comme phrase quand on comprend ce que ça veut dire libation. Parce que moi, au début, je ne savais pas. Et donc, une libation, c'est une offrande de boisson. Alors, Paul n'a pas servi son café du matin à Jésus. En fait, ici, il l'utilise dans un sens figuré pour dire quelqu'un dont le sang est versé dans une mort violente pour la cause de Dieu. C'est quand même très fort et très intense. Alors, moi, la première question qui me vient, c'est comment est-ce que Paul, il arrive à continuer à être un exemple de la foi avec tout ce qu'il vit? Comment est-ce que c'est possible qu'il ne soit pas fatigué à un moment et qu'il se dise « petite pause dans le ministère, ça va me faire du bien ». Et au plus loin, un peu plus loin dans le texte, on apprend en plus qu'il y a des personnes qui considéraient comme ses amis, qui l'ont trahi, qui l'ont abandonné. Et quelle est sa réaction? Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Et je me dis, encore une fois, pas fatigué le gars, quoi. Il continue, il continue, il continue. Malgré les galères qu'il vit, sa réponse est de se tourner vers le Seigneur. Et Paul, il demande même pas une petite vengeance. Il demande rien du tout. Et au contraire, il demande à ce que ce ne soit pas pris en compte. Et on entend souvent les phrases un peu du type « bien fait pour toi ». Quand quelqu'un nous fait du mal et qu'on voit qu'il lui passe quelque chose de mal, on se dit « ah, bien fait pour lui ». Il l'a un peu mérité. Et à nouveau, Paul, il nous montre que ce n'est pas la chose à attendre. Même si on ne cherche pas à se venger parce qu'on grandit dans l'Église et on apprend que la vengeance, ce n'est pas bien, eh ben, on garde une certaine rancœur et on espère un peu que Dieu il nous vengera à un moment donné et à un moment donné où nous, on pourra voir qu'il nous a vengés. Parce que comme ça, ça nous fait du bien. On se dit « ah, il y a de la justice dans le monde ». Mais en fait, Paul, il nous montre que ce n'est pas ce qu'on doit attendre et ce n'est pas ce qu'on doit espérer. Même si ce n'est pas simple, on va être honnête. Et donc pour tout ça, Paul, c'est un exemple de foi qui est impressionnant. Et faire comme Paul, ce n'est pas facile. C'est extrêmement difficile, en tout cas pour moi, de réussir à toujours être centré sur Dieu. Et de ne pas avoir d'attente de la part des personnes qui nous entourent et de me dire « Dieu, Dieu me suffit ». Mais on n'a pas à être des super-héros de la foi et on a encore moins à être parfait. En fait, on doit être un peu juste, essayer d'être comme Paul et de nous centrer sur Dieu et surtout reconnaître qu'on n'est pas les maîtres de nos vies. Nos vies, comme celles de Paul, elles appartiennent à Dieu. Alors là, je vous ai peint un peu un portrait de Paul qui fait quand même très Superman. C'est un homme capable de grandes choses. Il a fait énormément de choses dans sa vie, accompagné seulement de Dieu. Mais en réalité, Paul, il n'est pas comme Superman. Parce que si vous voyez, Superman, il combat seul contre le monde. C'est lui seul qui arrive à vaincre l'injustice. Or, Paul ne mène pas sa mission d'annoncer l'évangile tout seul. Au final, Paul, c'est un être humain qui est humain. Alors, bien que c'est un modèle en matière de vivre, de vivre la foi, et vraiment tout ce qu'on peut lire sur lui est impressionnant, mais on peut voir dans tout ce qu'il écrit aussi que Paul est toujours accompagné. Un premier exemple pratique, beaucoup des lettres qu'on a de Paul dans la Bible, ce n'est pas forcément Paul qui les a écrites, sinon c'est un ami qui les a rédigées pour lui quand il n'en était pas capable. Et si on creuse un peu plus profondément et qu'on ne s'arrête pas à ce premier exemple, on voit à quel point Paul a besoin et se repose sur ses amis. Et dès le premier verset de 2 Timothée 4, on peut le comprendre. Parce que Paul, il ne demande pas à Timothée s'il est dispo un de ses quatre pour venir l'aider à passer un petit temps en prison parce que c'est difficile, il a besoin de soutien. Non, il conjure Timothée. C'est un très vieux verbe pour dire « il faut que tu viennes tout de suite, maintenant je t'en supplie, pitié viens avec moi ». Et donc Paul, il place toute sa confiance en Timothée pour l'aider à perpétuer ce que Paul a commencé, qui est de prêcher la parole, d'insister en toute occasion, de reprendre, d'exhorter avec douceur tout en instruisant, mais aussi de rester sobre, de supporter les souffrances, de partager l'évangile et de bien remplir son ministère. Paul a besoin de Timothée. Et en plus de ça, le passage que je vous ai lu, qui est quand même déjà un peu assez long, vous voyez qu'il y a énormément de noms qui sont cités. Et moi, tous ces noms, ça m'intrigue. C'est peut-être mon côté jeune. Ou si j'avais pu, j'aurais cherché tous les noms sur Facebook pour voir leurs dernières photos de vacances, des petites infos. Malheureusement, à l'époque, ils n'avaient pas Facebook, donc on n'a pas de photos. Mais j'ai quand même cherché sur Internet, parce qu'il y a des réflexes qui ne changent pas. Et donc j'ai cherché, et on trouve quand même des petites infos. Et j'ai vraiment pas été déçue. Parce que tous les noms, enfin un par un, j'ai écrit comme ça, tous les noms, eh bien ils viennent tous d'autres parts dans le monde. Il y en a certains qui viennent de Rome, d'autres qui viennent d'Éphèse, d'autres qui viennent de Corinthe, ou même encore de Crète. Il y en a qui sont juifs et qui se sont convertis. Il y en a qui étaient considérés comme païens, donc qui n'étaient pas juifs de base et qui se sont convertis. Enfin, c'est vraiment un melting pot, un mélange. Et c'est assez impressionnant. Et comme dit, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc pour se créer des contacts aussi loin dans le monde, il fallait marcher. Hein. Et je trouve ça merveilleux de se dire que déjà à l'époque, il y avait une communauté dans les églises où on arrivait à, même de loin ou de près, on pouvait être ensemble. Et c'est encore plus beau qu'on peut encore faire pareil aujourd'hui grâce à l'Église. Donc Paul, il ne comptait pas que sur ses propres forces pour réussir à mener à bien sa mission. Il s'est entouré d'une foule d'amis pour le soutenir. Et Paul nous montre, en plus du fait qu'il compte avant tout sur le Seigneur, que les amitiés et les personnes qui partagent notre foi sont importantes. Une vie de foi ne se vit pas seule, mais entourée de personnes prêtes à nous épauler et à venir nous soutenir dès que le besoin en est là. Tout comme Paul avait la pleine liberté de demander à Timothée de tout lâcher pour le rejoindre au plus vite. En sachant qu'à l'époque, c'était pas juste prendre un train ou un avion, c'était quand même des longs chemins. C'est pas rien de demander à quelqu'un de faire le trajet pour le rejoindre. Mais Paul écrit noir sur blanc, « Viens au plus tôt vers moi ». Mais alors, tout n'est pas rose, malheureusement, dans les relations humaines. Je pense qu'on s'est tous un jour disputé avec quelqu'un. On s'est tous un jour senti trahi. On a tous vécu des incompris ou des malentendus qui s'enveniment et on n'arrive pas à s'en sortir et on n'arrive pas à creuser l'abcès. Et malheureusement, ça se passe pas que en dehors des murs de l'Église. C'est pas parce qu'on a la même foi et la même mission de partager l'Évangile qu'on va pas avoir des désaccords et des conflits avec nos frères et sœurs en Christ. C'est triste, mais malheureusement l'être humain est humain, ce qui veut dire qu'il est plein de défauts avec lesquels nous devons un peu apprendre à composer et surtout apprendre à atténuer au fil de notre vie avec Christ. Et on a récemment eu au groupe de jeunes, donc au groupe de jeunes cet été là, quand on se rejoint en bas les mercredis, une discussion autour de la création des différentes dénominations. Je pense que vous le savez, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est dur un peu de se situer. Je ne suis pas certaine que je sois vraiment située. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et notre grande question, c'était pourquoi est-ce qu'on a plusieurs dénominations dans le monde chrétien? Et la grande réponse, c'est parce qu'en fait, à un moment, il y a eu des désaccords et des conflits qui étaient suffisamment importants pour que les personnes concernées à cette époque considèrent que le mieux, c'est de se séparer pour remplir à bien la mission qu'on a tous, qui est d'annoncer l'Évangile. Alors, si vous voulez plus d'infos, parlez à Elliot, qui pour l'instant est en bas avec le caté, mais après, il se fera un grand plaisir de parler avec vous de ce sujet. Et dans notre texte, on apprend donc que Paul aussi, il a dû faire face à des trahisons et à des amis qui lui tournent le dos et à des déceptions relationnelles. Tout d'abord, on apprend que son ami Démas, qui était à Rome avec lui au moment où il se fait emprisonner, il est parti. Il a vu le problème et il s'est dit « Ouh là non, Je ne veux pas avoir affaire à face à ça. Je retourne à ma petite vie tranquille et agréable à Thessalonique, bien loin en plus, loin de Rome, comme ça pas de problème. Si on ne voit pas le problème, il n'est pas là. Et si on se met à la place de Paul, c'est quand même une trahison vraiment grande. Parce que Paul, il est tout seul, enfin il est avec Luc, enfin ils sont deux maintenant. Il se fait emprisonner d'une manière qui est décrite selon les historiens comme assez dure, vraiment beaucoup plus difficile que la première fois qu'il se fait emprisonner. Il a ses deux copains qui sont Démas et Luc, et l'un d'eux décide quand même de partir. Ça divise quand même les forces. Et en plus, voilà, il l'abandonne par amour pour le siècle présent, alors que toute la lutte de Paul, c'est de faire comprendre au monde que Jésus est plus grand. Donc vraiment, dure trahison. Deuxième problème relationnel auquel Paul a été confronté, bien c'est Alexandre. Alors on ne sait pas trop qui est vraiment cet Alexandre. Il est cité 3 fois par Paul dans ses lettres. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails et faire des comparaisons de est-ce que Alexandre de Timothée 1 est le même Alexandre que de Timothée. Mais en tout cas, on peut quand même comprendre que cet Alexandre, il n'est pas très gentil. Hein, et qu'il n'a pas vocation d'aider Paul. Étant donné que Paul lui-même dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal » et il invite Timothée à se méfier de lui. Et enfin, la dernière trahison qu'a vécu Paul, difficulté qu'a vécu Paul relationnellement, eh bien, c'est quand il a subi la méchanceté humaine qui est que lorsqu'il se présente au tribunal, bah personne ne l'a soutenu. Se retrouver seul à devoir défendre son cas tout seul devant tout le monde qui est contre lui, ça doit vraiment être difficile. Alors dans le verset 16, dans la version de Louis II, on ne comprend pas forcément qu'on parle d'un tribunal, mais si on lit dans la version Bible Summer, on comprend bien. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Tous m'ont abandonné. Ça fait quand même beaucoup d'épreuves dans la vie de Paul et beaucoup d'épreuves qui sont en lien avec d'autres êtres humains. Donc Paul a aussi vécu des trahisons et des déceptions de la part d'autres personnes qu'il considérait probablement comme ses amis. Alors je vous dis tout ça parce que, voilà, j'ai été sincère avec vous et je vous l'ai dit dans l'intro, je considérais Paul un peu comme une figure inatteignable, un exemple un peu trop parfait qui nous a été donné pour qu'on puisse essayer de faire comme lui, mais sans jamais vraiment réussir. Et donc au final, bah, je mettais un peu Paul à la même hauteur que Superman. Un type extraordinaire, avec des pouvoirs extraordinaires. Sauf que les pouvoirs de Paul, c'est pas de voler ou de tirer des lasers par les yeux, c'était juste d'avoir une foi vraiment solide. Un autre super-héros. Et au moment où moi j'ai eu besoin de me sentir soutenue par Dieu dans l'épreuve que je vis, il m'a montré que j'ai pas à être un super-héros. Et que Paul n'est pas un super-héros. C'est pas un genre de mini-dieu non plus. Il a vécu des galères, il a été blessé par ses amis, mais il a aussi su se faire des amis et s'entourer de plein de personnes qui l'aimaient et le soutenaient. Paul a aussi besoin d'amis pour faire face aux épreuves de la vie. Et alors certes, on voit qu'il a une foi immense et qu'il se repose avant tout et surtout tout le temps sur Dieu, mais on comprend aussi qu'il a besoin de personnes sur terre, maintenant, pour le soutenir. Et alors, pour reprendre les mots de Paul, je crois que je combats le bon combat. J'ai donné ma vie à Dieu et je cherche à montrer l'amour de Dieu au monde, dans ma vie de tous les jours, bien que des fois ça ne passe que par des sourires ou des petits encouragements. Et je crois aussi que je cours ma course, mais j'ai un peu un nouveau point de vue sur cette course maintenant, parce que je la vois plus comme un marathon. Je ne sais pas si vous avez l'image, où on est tous ensemble en train de courir, et on va tous ensemble dans la même direction. Alors je vous invite à rejoindre ce grand marathon, et à avoir assez confiance en Dieu pour avoir confiance en vos frères et sœurs de l'Église, à avoir assez confiance en Dieu et avoir assez d'amour pour pardonner les erreurs et pour continuer à partager l'Évangile autour de vous. Pour résumer encore mieux ce que je voulais vous partager ce matin, l'idée que je veux vraiment vous transmettre, eh bien, c'est que vous n'êtes jamais seul. Peu importe l'épreuve que vous traversez, Dieu vous accompagne, Dieu est votre meilleur soutien, et vos amis aussi vous soutiennent. Je vais juste prier. Ouais, Seigneur, merci parce que tu nous permets d'être une communauté, d'être une grande famille qui dépasse les relations faites par les liens du sang. Seigneur, merci parce que on peut avoir confiance les uns en les autres, parce qu'on partage une foi commune, parce qu'ensemble on sait que tu es amour et tu nous aimes et tu veux qu'ensemble nous puissions aimer le monde. Seigneur, merci parce que on peut profiter vraiment du soutien de chaque personne ici. Merci parce que tu nous accompagnes et que tu renouvelles nos forces à chaque instant. Amen.
Faire suite à la prédication de Mélina, et merci beaucoup. Je vous propose un temps de prière communautaire que je terminerai moi-même par la prière.
D'être un grand Dieu en qui nous pouvons avoir confiance d'un bout à l'autre des saisons de la vie. Je veux te redire ma confiance en toi et je te remercie pour la communauté de l'Église, la famille spirituelle que nous formons. Et je te prie de m'aider, de nous aider à développer des relations d'amitié durables et bienfaisantes. Jésus.
Amen. Oui, Père, merci aussi pour ces paroles de Mélina. C'est vrai que Seigneur, de courir ensemble va moins vite que si on est tout seul, mais encore plus longtemps. C'est vrai, Seigneur, merci pour nos frères et sœurs. Merci aussi pour les dons que tu donnes à l'Église ici à Mérin, mais Seigneur aussi dans l'Église universelle. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants aussi d'être pas tout seuls dans cette course pour mener le bon combat, mais d'être ensemble. Et je crois, Seigneur, tu nous rassembles. Nous nous rassemblons autour de toi, Seigneur. Et je crois que ça, c'est une richesse que toi, tu nous as accordée à chacun d'entre nous. Amen.
Vie de foi, Seigneur, elle n'est pas explosive. Une vie de foi, C'est un parcours qui est long, Seigneur, et ça s'apparente plus à un marathon, Seigneur, avec toutes les épreuves qu'on peut vivre dans une vie. Heureusement, tu es là et tu nous relèves à chaque fois. Et tu nous demandes d'être patient et de faire courage. Seigneur, tu nous donnes à chaque fois le bon ravitaillement. Tu es là pour nous dans nos vies, quand on en a le plus besoin, comme quand parfois on semble ne pas en avoir besoin, Seigneur. Je te suis profondément reconnaissant pour ton œuvre dans ma vie et dans la vie de tous nos frères et sœurs, ici et à travers le monde. Tu vois qu'on ne court pas tous le même marathon, Seigneur, mais pour autant, tu t'inscris dans la durée, Seigneur, dans nos vies. Je te remets notre communauté ici à Mérin, te bénis pour... Je te prie de bénir chacune et chacun, Seigneur, dans cette communauté, qu'on puisse se soutenir les uns les autres et qu'on puisse vivre ces moments de joie comme de tristesse, Seigneur, en communauté. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose un temps de scène maintenant et j'invite Sylvain à me rejoindre.
Une libation, une vie offerte par une mort violente. C'est ça le souvenir, le mémorial que nous célébrons avec la Sainte Seine. Jean-Christophe nous a parlé de ces deux moments près de la fin de la vie de Jésus, ce moment où la foule crie « Hosanna » et puis ce moment une semaine plus tard où, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais en tout cas des gens... qui sont entraînés par les chefs religieux, crient à mort, crucifie-le. Mais deux, trois jours avant, les chefs religieux avaient déjà pris leur décision. Tout était plié. Et c'est à ce moment-là que Jésus rassemble ses disciples pour le dernier repas. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Et il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Et après le souper, il reprit la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » La vie qui nous est donné par l'offrande de Jésus.
Juste indiquer que les verres au centre colorés contiennent du jus de raisin et ceux aux alentours du vin. Et s'il y a deux ou trois personnes qui veulent bien venir pour distribuer, c'est volontiers. Je passerai aussi avec la coupe pour celles et ceux qui le désirent.
Vous faites signe si vous désirez prendre la coupe.
pouvons conclure par ce chant qui dit « Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payée pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. »
Alors le culte touche à sa fin et d'ordinaire j'aime bien remercier toutes les personnes qui ont pu y participer. C'est vrai que ça se prévoit d'une semaine à l'avance, donc il y a pas mal d'échanges dans la semaine. Donc merci à l'équipe Louange, à la technique, à toutes et celles et ceux qui ont pu envoyer des informations tout au long de la semaine. Je rappelle une chose, encore une fois, c'est que le conseil nous fait une séance d'information juste après. Même si vous avez faim, ne partez pas tout de suite. Et en plus, il y a le repas communautaire, donc naturellement, ceux qui resteront ne mangeront pas avant. Tous les matins, j'ai ma petite application sur le téléphone de Bible qui me donne un verset du jour. Et la bénédiction, souvent, je dis, moi, le Seigneur, il va me faire quelque chose que je pourrais lire, parce que des fois, c'est pas fou à lire. Et là, ce matin, en Matthieu 5, 14, c'est dit, « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. » Je pense que ça peut être une parole qui peut vous accompagner pour cette semaine, que ce soit dans vos échanges ou au travail. Belle semaine à chacun. Merci.